quasiment dans les mêmes parages. Et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes chausses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Il y avait dans le temps un bon grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas. Pour que rien ne se perde, mangerai on sait quoi ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur juger la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de glep toute neuve. Mais le bon chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole, chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grande ma main. Par où donc que cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Au mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe, je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont? Dans le fond de ma panetière. Et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mange-terre. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main, je pourrais bien l'élargir demain.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz et c'est l'heure de l'émission, comme tous les premiers lundis du mois, Les Mangeterres, une émission d'écologie sociale et bien de lutte sociale. Il en est question de manière intense depuis de longs mois, ce qui m'amène à démarrer tout de suite avec un article issu du mensuel La Décroissance, mensuel sans publicité, que vous trouvez dans les kiosques, donc le numéro d'avril pour 3,50 €, avec un sujet intéressant, notamment sur le titre, c'est « Faites des bébés, pas la guerre, pour sauver le monde », voilà, qui revient et qui bat un peu en brèche cette idée de dénatalité, autour de l'idée du fait que la planète peut ne peut pas, c'est sûr, supporter 6 milliards ou 7 milliards d'automobilistes, mais voilà, tout dépend du niveau de vie et de l'impact évidemment de son niveau de vie, et ce n'est pas une véritable question. En tout cas, ce n'est pas un dogme, cette question de la démographie et de la natalité. Le mensuel ouvre le débat et c'est très bien comme ça. C'est très enrichissant. Alors moi, mon sujet, puisque on parle des luttes sociales et qu'on parle de la réforme des retraites, eh bien, c'est de revenir encore et toujours avec le petit économiste sur cette chronique qui s'intitule « Au travail !» et qui nous dit que la réforme des retraites est finalement passée. Très mauvaise nouvelle, assurément. À nous de comprendre la profondeur de l'opposition qu'elle a suscitée pour engager un combat vital autour de la question du travail. Parce que contrairement à ce que l'on entend souvent, l'objectif de la réforme des retraites n'est plus ou n'est pas de nous faire travailler toujours plus, de nous faire bosser à mort. Emmanuel Macron lui-même le disait en 2019, citation, « Quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, que l'on a eu une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. » Donc ça, c'est une citation qui a été reprise d'Emmanuel Macron, et tout le monde le sait, donc une majorité de travailleurs du privé de plus de 55 ans n'est plus dans l'emploi stable, et n'y sera plus jamais, tant la logique suicidaire du système technicien est de remplacer le travail par des machines, notamment numériques. C'est pourquoi, lorsque Macron découvre, entre guillemets, en 2023, ouvrez les guillemets, les risques financiers trop grands pour notre régime de retraite, fermez les guillemets, il ne s'agit que de tactique, bien sûr, porter l'affrontement sur l'argent, et ça marche très bien, hélas, puisque les principaux opposants à Macron nous sortent des milliards du chapeau, ici ou là, qui, grâce à la productivité, ou l'emploi, ou la croissance, et qui garantissent la possibilité de financer des retraites, c'est-à-dire le hors-travail qui nous fait sortir enfin de cette vallée des larmes qu'est l'emploi. Cette erreur est tragique, nous dit Denis Baba dans sa chronique de la revue La Décroissance, parce qu'en réalité, le seul objectif du pouvoir est de renforcer encore et encore notre servitude politique, faire en sorte que sous la très longue menace de ne pas avoir nos trimestres cotisés, nos points retraite, nous nous tenions bien sages aux âges de notre pleine activité professionnelle, que nous bossions la tête bien courbée, et que devenus vieux, et pour le management moderne, on est vieux à 55 voire 50 ans, des millions d'entre nous au chômage, puis casse de la sécu chômage aidant aux minima sociaux, pour que nous donc quémandions quelques heures d'emploi précaire afin de compléter notre maigre pitance. Nous y serons d'ailleurs contraints. Heureux hasard du calendrier, se met en place l'expérimentation RSA contre-travail qui est plébiscitée notamment par les ultralibéraux d'Europe Écologie Les Verts de la métropole lyonnaise. Nos dirigeants, dans leur grande mansuétude, nous donneront quelques heures d'emploi précaire pour que nous ne crevions pas de faim. Que révèlent les manifestations monstres de ces dernières semaines ? Entre autres, que plus grand monde n'adhère fondamentalement au travail tel qu'il nous est imposé dans l'emploi et la fonction publique. Tout le monde sait que les effets de ce travail sont un désastre écologique et humain. Que pour les forces sociales que sert Macron, nous ne sommes rien. Rien d'autre que de la viande humaine à servir la machinerie économique. C'est une violence absolue que la bourgeoisie macronienne met en place, éradiquant progressivement l'humain dans l'humain, devenu variable d'ajustement économique. C'est là encore tout sauf un hasard, n'en déplaise à de nombreux lecteurs, si se met en place au même moment le suicide assisté dans les sociétés techniciennes déshumanisées. Lorsque nous ne sommes rien, parce qu'en permanence disqualifiés socialement par le pouvoir, quoi de plus logique que celui-ci nous suicide lorsque nous sommes manifestement trop vieux, trop malades, trop handicapés, trop déprimé pour servir sa stratégie de domination. C'est cette société pour la mort que, au-delà des comptabilités de trimestre et d'âge de départ à la retraite, refuse viscéralement, et c'est une joie, nous dit Denis Baba, des millions d'entre nous. C'est pourquoi il est politiquement suicidaire, moralement désastreux que des plumes décroissantes défendent la retraite au nom du non-travail. Remettent encore et encore le couvert pour une dotation inconditionnelle d'autonomie pour travailler moins. Tout cela, c'est déserter le combat central de l'heure, quel travail dans une société en crise écologique. C'est ne pas affronter cette violence inouïe de la bourgeoisie à la tête d'un modèle économique entièrement discrédité, qui ne peut plus compter que sur la contrainte, de plus en plus dure, pour nous faire bosser. À l'usine, à l'hôpital, à l'école numérique même, au bureau, etc. La décroissance engage au contraire un immense travail sur le travail. Que montrent en effet les parcours de vie alternatifs des personnes qui témoignent dans la rubrique donc, du journal Simplicité Volontaire, leur grande joie malgré les difficultés de se rendre autonomes, maîtres de leur travail le plus respectueux possible de la nature et des humains. C'est à partir de là qu'il nous faut commencer à penser, évidemment, si la retraite c'est les grandes vacances, si nous la défendons comme telle, nous ne sommes pas à la hauteur. La question fondamentale qui est posée aux jeunes comme aux vieux, c'est comment nous donner à l'échelle collective les moyens, les institutions pour que se généralise un travail écologiste et humaniste. Sinon, les meilleures idées du monde pour la décroissance, une société écologique, resteront lettre morte. Alors, la conclusion de l'article, c'est évidemment au travail. Voilà, on a déjà évoqué hein, ce sujet et le fait que c'est par le travail qu'on finance les retraites et c'est une part qui est prélevée sur la richesse et bien sûr il n'est pas question de se soumettre à l'État, de se soumettre à l'impôt, mais bien au sein d'un organisme qui ressemble à la Sécu, sauf que nous ce qu'on voudrait c'est que cet organisme soit autogéré, c'est-à-dire que les travailleurs est une représentation à la hauteur de leur nombre, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la démocratie sociale. Eh bien, voilà, c'est tout ça l'enjeu. Et au lieu de se faire voler par l'État, qui vole au secours des différents déséquilibres financiers pour mieux finalement garder la main sur toutes les décisions. Voilà ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans cette réforme contre l'intérêt des salariés, contre l'intérêt des retraités, contre l'intérêt des chômeurs, contre l'intérêt de la classe ouvrière, en tout cas de tous ceux qui n'ont que leur force de travail, ou principalement pour vivre. Voilà ce que je souhaitais rappeler et défendre en exergue de cette émission. Et puis puisqu'on fait un petit tour d'horizon un peu décousu pour démarrer, je voulais aussi faire écho de l'article de Jean-Luc Porquet dans le Canard qui élève un peu le débat et qui nous fait même voyager sur les crêtes, comme l'intitule cet article, et qui nous conte l'histoire de quelqu'un qui, au soir de sa vie, donc un vieux révolutionnaire, se penche sur son passé. Il a échoué, la révolution tant espérée n'a pas eu lieu. Le capitalisme moderne triomphe avec son absence totale de projet autre que le fonctionnement répétitif et l'accumulation. Mais Daniel Blanchard n'a pas d'amertume, donc c'est l'auteur du livre « La vie sur les crêtes ». Pas de regret. Avec Guy Debord, en 1960, dans un resto de la rue Mouffetard, il écrit un texte fondateur sur les avant-gardes. Puis Debord et lui s'éloignent. Il rejoint alors le groupe de Cornelius Castoriadis, dont le nom résume tout, socialisme ou barbarie. Le socialisme tel qu'il le rêve, où régnerait l'autogestion généralisée, l'égalité des salaires et l'épanouissement de la créativité de chacun, reste toujours hors d'atteinte. Vient alors mai 68, qu'il décrit d'un mot. Donc on parle toujours de Daniel Blanchard et de son livre « La vie sur les crêtes ». Il décrit mai 68 comme un immense allègement. Pour lui et ses camarades du groupe, donc socialisme ou barbarie, enfermés dans leur petit cénacle, tout s'ouvre de nouveau. Le vrai, le vif des sociétés avait ressurgi, rouvrait l'histoire. Daniel Blanchard s'installe pour une brève période aux États-Unis, où il vit dans une des premières communes de la contre-culture, mue par le fameux « do it », c'est-à-dire ne reste pas à ruminer ou à spéculer abstraitement sur ce qui te paraît juste et désirable, agis pour que cela devienne réel. Mais il s'en rend vite compte, citation, « à aucun moment ne s'est constitué entre toutes ces communes qui se voulaient en rupture avec l'État américain, ne serait-ce que l'embryon d'une collectivité politique qui serait déterminée démocratiquement à la base sur des questions d'intérêt commun. » On se prend à songer aux écolieux, donc les écolieux, qui se multiplient aujourd'hui en France. Blanchard vécut ensuite 1000 vies, traducteur, poète, imprimeur. Il eut 1000 camarades et amis, ainsi de l'anarch écolo Murray Bookchin, ardent défenseur du municipalisme libertaire, qu'il fut le premier à faire éditer en France. Surtout, il garda en lui comme un trésor un lumineux souvenir. À l'été 44, son père communiste, grand résistant, a disparu dans les Alpes du Sud. Angoisse, les Allemands l'ont-ils fusillé ? Mais voilà qu'un jour il réapparaît et raconte que lui et quelques 80 maquisards ont marché trois jours, dormant à peine, presque sans rien manger, suivant les crêtes. Ce récit fondateur le marquait à vie, toujours cheminé sur les crêtes. À lire cette passionnante autobiographie, nous dit Jean-Luc Porquet dans Le Canard Enchaîné, on ne cesse d'interroger le sombre aujourd'hui. Page 207, il évoque un article où Castoriadis, après avoir brossé un tableau magnifique de ce que pourrait être une société socialiste, projette ce modèle de société autonome sur la société capitaliste comme une grille critique, un révélateur qui en fait apparaître à tous les niveaux l'inhumanité, l'absurdité, le révolu, la crise. On se prend à en faire autant, à imaginer comment une société autonome aurait su éviter les grands gâchis du jour, les retraites, les méga-bassines. Et c'est vertigineux, nous dit Jean-Luc Porquet. Voilà une note d'ambiance autour de ce livre, donc paru aux éditions du Sandre, ce livre de Daniel Blanchard intitulé « La vie sur les crêtes ». Et puis pour bien redescendre un peu sur terre, sur des sujets assez concrets d'actualité, avant de s'accorder une respiration musicale, je voulais revenir avec La Relève et la Peste sur une proposition de loi qui a été examinée en commission de l'Assemblée nationale le 28 mars, donc la semaine dernière, avec pour objectif de mettre fin au gaspillage énergétique ainsi qu'au désastre écologique et sanitaire des écrans numériques. Eh bien, cette proposition de loi a été bloquée par le RN, Renaissance et les Républicains. En effet, un collectif d'associations soutenait la proposition de loi et appelait les parlementaires à voter en faveur de cette interdiction, estimant que le cadre législatif est jusqu'ici resté bien trop léger sur le sujet. Dans son plan de sobriété, le gouvernement avait présenté l'interdiction le 6 octobre dernier par décret des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin. Une mesure estimée peu utile par les associations écologistes. C'est vrai qu'entre 1h et 6h du matin, c'est quand même assez réduit. Dans la mesure où l'interdiction existait déjà dans les villes de moins de 800 000 habitants. Les publicités lumineuses vont à l'encontre de la nécessité actuelle de sobriété, encouragent à la surconsommation et contribuent à la pollution lumineuse. Le rapport de l'ADEME de 2020 estimait que la consommation d'un écran de 2 mètres carrés était autour de 2000 kWh par an, soit quasiment la consommation annuelle d'un ménage hors chauffage. C'est pourquoi de très nombreux citoyens et citoyennes se sont mobilisés durant l'hiver dernier pour dénoncer le gâchis que représentent les publicités lumineuses. Une pétition lancée en septembre 2022 pour éteindre les écrans publicitaires et renforcer la législation sur les publicités et les anciennes lumineuses a été signée par plus de 65 000 personnes. Des collectifs citoyens ont également mené des centaines d'actions pour interpeller les pouvoirs publics. Le samedi 18 février, les militants et militantes se sont mobilisés dans 38 villes en France contre la pollution lumineuse. Au total, plus de 2400 dispositifs publicitaires ou lumineux ont été éteints ou recouverts. La sobriété est une question de priorisation des usages, de cohérence, de justice environnementale et sociale et ne peut se réduire à des engagements volontaires, rappelait ainsi un collectif d'associations dans un communiqué. Selon un sondage réalisé par Greenpeace début 2023, 85% des Français et Françaises sondés sont favorables à une réduction du nombre d'écrans, tandis que 54% soutiennent leur interdiction totale. Donc on voit une majorité en tout cas dans ce sondage. Or, selon un rapport de l'ADEME de 2020, en 2019, on dénombrait 55 000 écrans publicitaires numériques en France contre 40 000 en 2017, soit une augmentation de près de 40% en 2 ans. Pour toutes ces raisons, mais aussi pour des enjeux sanitaires afin de limiter la surexposition des personnes et notamment des enfants aux écrans, un groupe de députés souhaitait faire interdire les publicités lumineuses dans l'espace public. Débattu en commission donc mardi dernier, 28 mars, cette proposition de loi a été vidée de sa substance. Ce qui a été voté n'a plus aucun sens par rapport au titre de la PPL, car l'article qui voulait supprimer la publicité lumineuse et numérique a été supprimé, et à la place, ils ont adopté 3 amendements qui n'ont rien à voir avec la proposition initiale, déplore Thomas, chargé de plaidoyer dans l'association Résistance à l'agression publicitaire. Les groupes politiques ayant fait barrage à cette proposition de loi sont donc les Républicains, le Rassemblement National et Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. L'article unique de la loi qui proposait d'interdire toute forme de publicité numérique et lumineuse dans l'espace public a été supprimé. Le RN est celui qui a déposé le plus d'amendements, avec 2 amendements de suppression, dont de nombreux à côté de la plaque. Ces 3 groupes ont déroulé l'argumentaire des lobbies qu'on connaît très bien. Ceci dit, ce n'est pas étonnant de leur part, car il y a vraiment un double discours entre ce que le RN raconte aux électeurs et ce qu'il fait réellement quand il est aux manettes, dénonce Thomas, qui est chargé de plaidoyer dans l'association Résistance à l'agression publicitaire. Certains députés ont même accusé les écologistes d'être totalitaires lors du débat en commission en voulant supprimer la publicité numérique. Ce qui est totalitaire, c'est que nos cerveaux et nos yeux soient attirés en permanence dans l'espace public pour nous vendre une débauche de produits dont nous n'avons pas besoin. Il y a un désir social massif de cette mesure. Plus de 80% des citoyens sont en faveur de la suppression des écrans lumineux car ils trouvent qu'il y en a trop. Même RTE considère que cette consommation d'électricité est superflue et pose une question de cohérence et de dissonance cognitive pour l'ensemble de la population qui est enjointe à adopter des gestes de sobriété en étant elle-même envahie de panneaux numériques publicitaires, a répondu la rapporteure Delphine Bateau lors des échanges. Quelques amendements ont néanmoins été adoptés, un pour élargir le champ des prescriptions pouvant être fixées par arrêté ministériel pour limiter la pollution lumineuse et mettre en place des aires de protection de la faune nocturne et du ciel étoilé par la création de zones dites « trames noires ». Un autre amendement donc pour éteindre les éclairages de vitrines de galeries commerciales situées hors agglomération la nuit. Et enfin, un dernier amendement pour demander un rapport dressant un état des lieux des écrans publicitaires lumineux en France. On le voit, commentaire de ma part, toute l'ambition de ces amendements, c'est évidemment bien ironique hein, de ma part. Dans le précédent quinquennat, cette proposition avait déjà été débattue et avait reçu un non ferme et définitif. Au vu du contexte énergétique actuel, les spécialistes du sujet auraient voulu que cette proposition passe en hémicycle pour avoir un vrai débat. Certains députés qui n'étaient pas d'accord avec la proposition de loi complète, notamment Horizon, ont voté contre les amendements de suppression pour en débattre à l'Assemblée nationale car ils ont reconnu le travail important de Delphine Bateau mené sur le fond. Ils voulaient amender le texte en permettant au moins d'interdire les écrans numériques sans interdire toute la publicité lumineuse, mais même cela a été refusé, alors que les écrans numériques sont ce qui se fait de pire en matière d'affichage extérieur. Ils sont entre autres très compliqués à recycler. Si on avait pu commencer au moins par les interdire, ça aurait été une bonne avancée. On n'arrête pas de nous dire de faire attention à ne pas exposer les enfants aux écrans. Et dans le même temps, on en met de partout dans l'espace public. Dit donc Thomas, qui est chargé de plaidoyer à résistance à l'agression publicitaire et qui a témoigné auprès donc de la revue en ligne La Relève et la Peste. Quant à la charte signée cette semaine par les exploitants des gares, métros et aéroports pour éteindre les publicités lumineuses après leur fermeture, c'est seulement un effet d'annonce. Cette charte reporte de 6 mois ce qui a déjà été promulgué par un décret gouvernemental et entrera en vigueur en juin 2023. La publicité a encore de bons jours devant elle pour le plaisir des grands groupes et le malheur de nos cerveaux, conclut l'article. Effectivement, la publicité est un moteur de la surconsommation et un moteur extrêmement puissant. Et la lutte contre la publicité est un enjeu majeur de l'écologie, évidemment, et de la décroissance. Un sujet que nous défendons. Dans cette émission, Les Mangeux de Terre, on va s'accorder une pause musicale bien méritée avec Léo Ferré qui va nous clamer quelque chose d'actualité et ensuite on se retrouve pour poursuivre ce tour d'horizon des sujets environnementaux du mois écoulé et de la semaine écoulée. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89,4 MHz, dans l'émission Les Mangeux de Terre.
Il y a la nature qui est tout en sueur, dans les hectares il y a du bonheur, c'est le printemps. Il y a des lilas qu'on n'aime plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Et y a du blé qui se fait du mouron. Les oiseaux, eux, ils disent pas non. C'est le printemps. Et à nos chagrins qu'ont des couleurs. Y a même du printemps chez le malheur. Y a la mer qui se prend pour Monet. Ou pour Gauguin, ou pour Manet. C'est le printemps. Et y a des nuages qui n'ont plus de quoi. On dirait de la barbe, papa, c'est le printemps. Et y a le vent du nord qui a pris l'accent. Avec Mistral, il passe son temps. C'est le printemps. Et y a la pluie qui est passée chez Dior. Pour se payer le modèle Soleil d'or. Y a la route qui se fait nationale et des fourmis qui se font la malle, c'est le printemps. Et y a de la luzerne au fond des lits et puis le faucheur qui lui sourit, c'est le printemps. Et y a des souris qui se font les dents sur les matous, par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri. C'est la Sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un bol. À la santé du rossignol, c'est le printemps. Et il y a le Beaujolais qui la ramène. Et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est le printemps. Y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène, et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Y a l'été qui se pointe dans la rue, et des ballots qui n'ont pas vu.
Faut-il le préciser, comme nous le chante Léo Ferré, c'est le printemps, effectivement. Et puis, ce printemps sera social, en tout cas en manifestation ce jeudi, contre la réforme des retraites pour construire autre chose, construire les bases d'un autre futur. Avec toutes les organisations, notamment syndicales et toutes les organisations autogestionnaires surtout, et fédéralistes. Il s'agit de collectiviser les moyens de la lutte en développant tous ces outils. Et nous reprenons le cours de l'émission Les Mangeux de Terre. En ouvrant deux sujets, la biodiversité assez rapidement avec la situation de la forêt française et ensuite quelques mots sur l'eau, également la thématique de l'eau. Alors sur la forêt française avec Actu Environnement, article du 21 mars qui nous dit que la forêt française a une surface qui augmente mais que sa santé se détériore. En effet, la forêt française représente la quatrième surface forestière d'Europe. Selon les chiffres de l'inventaire national forestier 2021 de l'Institut national de l'information géographique et forestière, donc l'IGN, et du service statistique du ministère de l'Agriculture, Agrest Graf Agri, l'Hexagone compte plus de 17 millions d'hectares d'espaces naturels boisés, qui occupent 31% de sa superficie. Ce chiffre est en moyenne en constante augmentation, environ 80 000 hectares par an, depuis le début du siècle dernier. S'agissant de l'outre-mer, la forêt guyanaise, dont la quasi-totalité de la superficie est couverte par la forêt amazonienne, représente à elle seule 8 millions d'hectares. A noter que du fait de leur antériorité, ces données ne prennent pas en compte les plus de 72 000 hectares de bois et végétation de l'Hexagone partis en fumée en 2022. Alors en France métropolitaine, la forêt appartient encore très majoritairement à des propriétaires privés. Les espaces publics et domaniaux appartenant donc à des collectivités ou à l'État n'en constituant qu'un quart. Cela étant, elle représente 46% des 7,1 millions d'hectares d'espaces terrestres protégés en France au titre du réseau européen Natura 2000. Les bois métropolitains abritent en effet 72% de la flore métropolitaine, dont 190 essences d'arbres, avec le chêne, le hêtre et le pin en tête au niveau du nombre, 73 espèces de mammifères et 120 espèces d'oiseaux. Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture rappelle que la forêt capte l'équivalent de 15% des émissions annuelles de dioxyde de carbone de la France, estimée en 2020 à 550 millions de tonnes. Malgré ces chiffres encourageants, l'IGN rapporte que les arbres métropolitains ne sont pas en pleine forme. Sur la période 2011 à 2019, donc la décennie 2010, leur mortalité estimée à 10 millions de mètres cubes s'est accrue de 35% par rapport à la période précédente. L'Institut l'explique par les nombreuses crises sanitaires liées à des conditions climatiques difficiles pour les arbres, avec notamment la succession de sécheresses, qui sont propices à l'expansion géographique de bioagresseurs, en particulier les insectes xylophages, donc mangeurs de bois, comme les scolytes ou les champignons, comme la chalarose, qui touchent plus particulièrement le châtaignier, le frêne, l'épicéa commun et le pin sylvestre. Le stress hydrique provoqué par la sécheresse impacte également leur croissance, en baisse de 8% depuis 10 ans. Voilà, donc la situation de la forêt qui souffre, malgré son expansion, mais qui souffre évidemment du changement climatique et du stress hydrique. Ce qui nous amène à évoquer bien le sujet thématique de l'eau avec un article de reporter tout d'abord qui revient sur article du 1er avril qui revient sur la victoire une victoire contre la seule méga bassine d'Île-de-France puisque la méga bassine de Banteleu dans le Val d'Oise va être rebouchée, la préfecture ayant ordonné la destruction de ces monticules de terre de 125 mètres de long et 50 mètres de large, d'après une information de France 3. La bassine, donc d'une capacité de 25 000 mètres cubes d'eau, ne respectait pas le plan local d'urbanisme, le PLU. Le permis de construire n'avait pas non plus été accordé, racontait fin janvier à reporter Corinne Hauter, qui est une des habitantes mobilisées contre cette retenue. Elle avait donc été construite illégalement. C'est le maire du village qui a ordonné la remise en état du terrain après que le préfet du Val d'Oise lui en a intimé l'ordre à la suite d'une infraction au code de l'urbanisme, comme le rapporte le journal Les Échos. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle, contrairement à ce qui s'est passé à Sainte-Soline, évidemment. Et puis donc avec la Confédération paysanne, bien revenons grâce à leur communiqué du 30 mars sur le plan eau qui se place à contre-courant des urgences, nous dit la Confédération paysanne, puisque Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière le plan eau du gouvernement et derrière des termes et des éléments de langage sur la sobriété. Les propositions de ce plan ne changeront pas grand-chose face aux enjeux de la protection de la ressource en eau. Alors qu'à peine 7% de la surface agricole utile est irriguée, l'agriculture utilise dans certains territoires jusqu'à 80% des prélèvements totaux en période estivale. Pourtant, l'agriculture n'est évoquée que tardivement dans ce plan et n'apparaît pas dans le volet sobriété. On ne sait même pas si elle est concernée par l'objectif annoncé de baisse des prélèvements, pourtant indispensable, également pour l'agriculture. Par contre, ce qui est certain, c'est que le président exprime la volonté d'étendre la surface irriguée. Pour le stockage, Emmanuel Macron pointe la priorité de la vie des sols pour un rechargement maximal des nappes. Tant mieux, nous dit la Confédération paysanne, mais malheureusement, aucune mesure concrète n'est annoncée. Pour le stockage de l'eau dans des ouvrages, les critères fixés par ce plan eau sont le contraire des méga-bassines. Partage, fondements scientifiques et conditionnement au changement de pratiques. Nous espérons ainsi, nous dit la Confédération paysanne, qu'il sera mis fin à tous les projets de stockage qui ne respectent pas ces critères. Pour la Confédération paysanne, un vrai plan eau est un plan qui permet de réduire réellement les prélèvements d'eau de l'agriculture. Pour cela, il faut se poser de bonnes questions. Qu'est-ce qu'on irrigue? Pour quel modèle agricole et alimentaire? La réponse doit être un modèle agricole qui relocalise l'alimentation, produit une alimentation de qualité et in fine limite ses prélèvements et protège la ressource en eau. Pour cela, nous demandons urgemment de prioriser les usages de l'eau en agriculture. Les productions agricoles qui relocalisent l'alimentation et favorisent les emplois en agriculture doivent être prioritaires, en particulier le maraîchage diversifié. Deuxième demande, de plafonner les volumes d'eau accordés par ferme en fonction du nombre d'actifs et des productions. Les plafonds doivent être déterminés au niveau local et en fonction des conditions climatique et hydrogéologique du territoire et relativement à des pratiques qui favorisent d'abord les économies d'eau. Autre demande, de massivement réorienter les financements relatifs à l'eau en agriculture vers le soutien et le développement de pratiques qui permettent de retenir l'eau dans les sols, c'est-à-dire les couverts végétaux, les haies, les prairies permanentes, l'usage de semences paysannes, donc adaptées aux conditions climatiques, mieux adaptées, l'installation de haies, de bandes enherbées, et également de protéger l'eau par les baisses des intrants chimiques de synthèse et d'économiser la ressource en eau. Et enfin, quatrième demande, évidemment, mettre fin aux méga-bassines. Voilà, donc le syndicat agricole, la Confédération paysanne nous montre que bien on peut, tout en étant dans cette activité agricole, avoir une autre logique que celle de la croissance pour la croissance. Et une logique aussi de bien réflexion à la finalité du travail et de proposition d'ailleurs tout à fait cohérente. Voilà, on n'est pas condamné à bien suivre les intérêts majoritaires d'une agriculture tournée vers l'exportation et vers la culture de produits ou d'espèces en tout cas inadaptées à la pluviométrie et aux capacités en eau de notre territoire. Alors toujours une réaction par rapport à ce plan eau avec l'association Eau et Rivières de Bretagne qu'on aime bien citer pour ses combats, y compris lorsque ces combats se placent sur le terrain juridique et administratif. Hein, quelques victoires assez retentissantes y sont remportées. Il faut savoir utiliser le droit aussi. Bien, Eau et Rivières de Bretagne nous invite à passer aux actes, ou en tout cas invite les pouvoirs publics à passer aux actes, puisque, alors il nous dit d'abord que le plan eau qui a été présenté jeudi 30 mars contient des annonces qui étaient attendues depuis des années par les associations, c'est-à-dire la tarification progressive du prix de l'eau potable, l'objectif d'une baisse de 10% des consommations d'eau, la libération des budgets des agences de l'eau, etc. Donc à ce titre, Eau et Rivières de Bretagne salue l'effort écologique affiché. Mais certains sujets sont passés sous silence ou restent bien flous, notamment sur les montants qui y seront alloués. Nous ne pouvons pas non plus ignorer en parallèle des signaux alarmants. Les décisions répétées autorisant des élevages ou des méthaniseurs qui accroissent pollution et risques, au mépris des décisions de justice qui les annulent. Une indifférence de l'État envers les agressions des lanceurs d'alerte environnementaux et des actes en contradiction avec les annonces concernant la préservation de l'eau. La demande du ministre de l'Agriculture auprès de l'ANSES de revenir sur l'interdiction programmée de l'herbicide S-métolachlore, faite seulement quelques heures après l'annonce du plan eau, n'est pas anodine. Eau et Rivières de Bretagne attend donc des actes et des actes cohérents. Plus que de nouveaux engagements, le plan eau rappelle pour l'essentiel les mesures déjà annoncées en 2019 à la suite des assises de l'eau. Il s'agit donc en réalité plutôt d'une feuille de route du gouvernement et sur le contenu, la promesse de mettre enfin en œuvre des engagements pour la plupart déjà énoncés lors des séquences de concertation précédentes ou des orientations prises dans les véritables planifications écologiques locales de l'eau que sont les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, donc qu'on appelle les SDAG. Sans revenir sur l'ensemble des éléments présentés lors de la conférence de presse du 30 mars, voici quelques éléments d'analyse et d'attention. Alors, Eau et Rivières de Bretagne est située en Bretagne, donc il nous dit qu'en Bretagne, l'alimentation en eau potable dépend pour 3/4 des rivières et des barrages sur rivière. Le changement climatique, c'est d'abord des débits d'été plus faibles, qui commencent plus tôt dans la saison, et des crues plus brutales liées à des pluies plus intenses. La question de la sobriété est donc un défi pour une région dans laquelle les démographes annoncent l'arrivée de 400 000 habitants d'ici 2050. La sobriété est définie par le GIEC comme, citation, « l'ensemble des mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter l'utilisation d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, tout en garantissant le bien-être de tous dans le cadre des limites planétaires. » C'est le levier à mettre en œuvre en priorité pour une transition écologique et solidaire réussie et pour faire face aux défis environnementaux actuels. Une eau qu'on ne consomme pas est une eau qui reste disponible pour les milieux naturels et les autres usages. L'objectif annoncé d'une baisse de 10% de la consommation d'eau d'ici 2030 est donc un signal positif. Et si nous sommes satisfaits que la baisse de consommation reste un objectif central du gouvernement, rappelons que lors des assises de l'eau en 2019, les objectifs fixés étaient alors de moins 10% en 2024 et moins 25% en 2034. Pour y répondre, le gouvernement propose plusieurs solutions intéressantes dont la tarification progressive, l'utilisation domestique des eaux de pluie, l'éco-watt de l'eau, le matériel hydroéconome. Concernant la tarification progressive, c'est une demande de longue date des associations. Cette annonce est donc une excellente nouvelle. Comme elle relève de la compétence des élus locaux, Eaux et Rivières de Bretagne restera attentif à sa mise en œuvre et demande qu'il y soit associé un volet social. Les solutions techniques comme la réutilisation d'eau usée traitée, REUT, ou le développement de technologies hydroéconomes ont déjà fait l'objet d'engagements de l'État en 2019 à la suite des assises de l'eau. Elles ont leur place dans le panel de réponses à apporter, mais ne suffiront pas. La REUT, réutilisation donc, en particulier, représente des coûts importants et doit être étudiée avec parcimonie. Cela peut être une bonne idée à l'échelle d'un site industriel, mais récupérer l'eau en sortie des stations d'épuration n'est pas sans conséquences. Nicolas Forêt, adhérent et hydrologue donc d'Eau et Rivières et Bretagne, précise qu'en Bretagne, l'eau potable est prélevée à 75% dans les eaux de surface et manque donc dans les rivières, surtout l'été. La station d'épuration en restitue 70 à 80% et contribue largement au débit d'étiage. Évaporer cette eau pour l'irrigation, c'est donc assécher nos rivières au moment où elles sont les plus fragiles. La Bretagne a des ressources en eau souterraine limitées et tout ce qui facilite l'infiltration en profondeur de l'eau est donc crucial. Or, l'artificialisation importante et les modes de culture favorisent le ruissellement et un parcours plus rapide de l'eau jusqu'aux rivières et à la mer. Faire vivre nos sols est la condition pour y stocker plus d'eau et favoriser l'infiltration vers les nappes. Mais cet objectif, recommandé par les agronomes, nécessite de revoir en profondeur le modèle agricole productiviste. Les produits phytosanitaires agissent en détruisant « mauvaises herbes », entre guillemets les mauvaises herbes, champignons, insectes, qui font vivre les sols et entretiennent l'humus. Le plan gouvernemental reste absolument muet sur ces points. De la biodiversité en particulier, il en est trop peu question. Les solutions fondées sur la nature telles que la préservation et la restauration des zones humides, le reméandrage des cours d'eau, la recréation d'un maillage bocager efficient, la gestion de la matière organique des sols, la désimperméabilisation restent des parents pauvres de la planification écologique de l'eau. Redonner la capacité au sol de mieux retenir, mieux infiltrer et mieux purifier l'eau devrait pourtant être le cœur du sujet de la stratégie à redéployer. Il reste de nombreux trous dans la raquette, nous dit l'association, notamment sur la qualité des eaux et la biodiversité qui sont restés absents du discours présidentiel. Si nous observons des avancées sur la sobriété pour tous les usages de l'eau, de nombreuses questions restent en suspens quant aux moyens humains et à la mise en œuvre de ces orientations dans les décisions administratives qui seront adossées à ces ambitions. Voilà. Eh bien, travail à souligner de la part de l'association Rivières et Bretagne. On voit qu'il y a un certain nombre d'affichages, mais que toutes les questions demeurent sur bien celle des moyens. Et on retrouve finalement à travers ces questions, à travers cet article, un petit peu l'enjeu qu'on a aussi en matière énergétique, à savoir que on a la sensation que les solutions qui sont promues par le gouvernement doivent avoir un retentissement, on va dire, technologique. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un besoin de faire une plus-value avec une technicité et qu'on n'est pas vraiment là dans la sobriété. La sobriété, c'est-à-dire bien limiter les usages, avoir le courage d'afficher un objectif de décroissance. Alors ça, c'est sûr que c'est le chiffon rouge pour nos capitalistes, mais c'est tout à fait l'ambition. C'est vraiment ce premier axe majeur de sobriété et on le voit tant par les propositions de la Confédération paysanne en matière d'orientation agricole que par les propositions soutenues par l'association Rivières de Bretagne. Et bien que tout cela peut concourir à la sobriété si on s'extrait évidemment de cette logique de profit qui est une logique de mort, comme le clamait une affiche de la Fédération anarchiste qui me revient en tête à l'instant. Et puis, alors peut-être un article aussi, on va dire en complément. Alors là, on est sur un peu plus sur la question agricole et sur la question du bio. Avec Novetic qui bien revient sur la situation critique du bio, avec qui se demande si l'âge d'or du bio est fini, puisqu'après une période de forte croissance enviée par tout le secteur agroalimentaire, la filière bio enregistre un ralentissement pour la deuxième année consécutive. Selon une enquête de Nielsen IQ, les ventes de produits bio ont reculé de plus de 7%, 7,4% en grande surface en 2022. Côté enseignes spécialisées comme Biocoop, Naturalia ou encore Comptoir de la Bio, la baisse serait vertigineuse avec moins 12% de ventes selon les données fournies par les différentes enseignes. Nous avons un sentiment d'abandon de la part des pouvoirs publics qui laissent les structures économiques gérer seules les baisses de volume dans un contexte où nos collègues en conventionnel, donc conventionnel c'est l'agriculture non bio, bénéficient régulièrement de plans d'aide, notamment sur la betterave, le porc, le vin. Et tout ça est dénoncé par les représentants de la filière, dont la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Depuis, le gouvernement a débloqué des fonds et ils ne sont clairement pas à la hauteur des attentes. L'exécutif a alloué une enveloppe de 10 millions d'euros, soit 166 euros par ferme, ce qui est dérisoire bien sûr. Vu l'ampleur de la crise en bio, pour les seules filières porc, lait, fruits et légumes, nous avons besoin de 150 millions d'euros contre les 10 millions distribués. Et 150 millions d'euros, ce chiffre est réclamé par Mathieu Lancry, qui est président de Forbio, qui a, avec trois autres organisations, symboliquement enterré la filière bio lors d'une conférence de presse au Salon de l'Agriculture. La Confédération Paysanne réclame, elle, une aide d'urgence de 15 000 euros par exploitant bio. On est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Difficile dans ce contexte de réussir à convertir 18% des surfaces utiles cultivées en bio d'ici 2027, donc qui est un objectif que s'est fixé l'État, alors que ce taux stagne à 10% aujourd'hui. L'État doit respecter ses engagements en étant exemplaire avec le bio à hauteur de 20% dans les cantines, donc il faut une montée en puissance. A plaidé Christiane Lambert, qui est présidente du principal syndicat agricole, la FNSEA. D'autant que face à une demande qui se tarit, les agriculteurs passés au bio ne trouvent plus de débouchés. Dans la filière lait, un litre bio sur trois est vendu comme du lait conventionnel, selon le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Un manque à gagner colossal pour les éleveurs qui se sont convertis au bio dans l'espoir d'être mieux rémunérés. Pire, en 2023, ce phénomène de déclassement des produits bio vendus comme du conventionnel pourrait atteindre 43%. Et la filière lait n'est pas la seule concernée. Jérôme Jacob, éleveur de porc à Quimper et président de Bretagne Viande Bio, BVB, explique ainsi à l'AFP que les animaux qui ne peuvent être vendus sur le marché bio saturé sont écoulés sur le marché conventionnel. Quand on déclasse, ça coûte à Bretagne Viande Bio 180 euros par porc, avance-t-il. Or, une ferme bio emploie plus de personnel. Pour 55 truies, deux emplois plein temps et un à mi-temps sont nécessaires contre un seul salarié pour 100 à 120 truies en conventionnel, indique-t-il à l'agence France Presse. Mais pourquoi les consommateurs boutent-ils le bio? Si l'inflation et la crise du pouvoir d'achat sont évidemment des facteurs, Gilles Cressman, membre de l'Académie de l'agriculture de France, évoque à Novetic, donc la revue, une question de prix. Le bio a toujours eu un problème de prix, cela limite le potentiel de développement du marché. C'est un marché qui s'est banalisé, les acteurs du bio doivent retrouver des facteurs de différenciation. Mais ça sera difficile. Entre le label haute valeur environnementale HVE, très critiqué par ailleurs, entre donc ce label, entre les produits locaux, les produits régionaux, les mentions sans pesticides, les mentions sans OGM, les mentions sans huile de palme, la filière bio est concurrencée sur le créneau du mieux consommé. Chez les anciennes historiques de la bio, c'est l'hécatombe. Près de 200 magasins ont fermé en 2022 selon le magazine Biolinéaire. C'est particulièrement le cas pour Biocoop en Bretagne, territoire historique de l'enseigne. De manière générale, c'est une crise de confiance que traverse la filière attaquée sur ses valeurs. Manque de rémunération des producteurs, tomates en hiver, fruits de l'autre bout du monde. La déception est grande pour les consommateurs qui attendaient du secteur bio de la cohérence. Si les plus puristes se tournent vers des labels plus exigeants que le label AB, comme par exemple Déméter, il n'est pas surprenant que les autres passent leur chemin. Donc voilà un article bien paru dans Novéthique, un article du 6 mars. Et je signale aussi que dans le mensuel La Décroissance, dont je me suis fait l'écho tout à l'heure, eh bien, il y a un article très intéressant de Denis Bayon et Philippe Souchet sur le bio défait par la société industrielle qui va un peu plus loin dans la réflexion. Et c'est vraiment, vraiment intéressant, un article à lire et qui rappelle notamment, parce que je le dis de temps en temps aussi, que la part de la consommation alimentaire dans le budget des ménages est de 20% aujourd'hui, hein, donc avec seulement 3% pour les produits non transformés. On peut dire que la version, en tout cas, la plus développée de l'autonomie, c'est de consommer beaucoup de produits non transformés et les transformer soi-même. Hein. Donc là, on voit aujourd'hui, la part de la consommation alimentaire dans le budget des ménages, c'est 20%. 3% dont 3%, enfin 3% seulement pour les produits non transformés, et la part de la consommation alimentaire dans le budget des ménages était de 40% en 1950. Donc on voit à la fois l'effet d'une agriculture hyper productiviste, intensive et subventionnée, mais on voit aussi, et c'est là-dessus que je souhaite insister, bien que l'échelle de valeur a changé, hein. Quand on dit aujourd'hui que la nourriture est chère, on voit que globalement dans le budget d'un ménage, elle est deux fois moindre que ce qu'elle coûtait en 1950. Et quand on dit ça, on pense surtout au fait que les besoins se sont considérablement accrus et diversifiés. On peut penser pas seulement aux gadgets électroniques, mais tout un tas de choses de la société de consommation et de loisirs. Donc bien, ça amène aussi à une réflexion, et l'article, mais je vous laisserai le lire dans le mensuel La Décroissance, et bien conclut justement sur le fait qu'il faut peut-être mettre les moyens sur l'alimentation, et notamment revient sur ce concept de sécurité sociale de l'alimentation. Et bien pour faire cela, on ne peut pas faire du en même temps, hein, quand on est rationnel. Et donc, ben pour faire cela, il faut diminuer les autres besoins, et c'est quelque chose vraiment à travailler. Voilà, j'ai été long sur cette page. Et on va s'accorder une respiration musicale bien méritée. On se retrouve juste après. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, le rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entr'ouvrira. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rouge a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux.
Résident de la République, c'était Alain Bachung sur Radio Libertaire 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre, qui reprend son cours. Ça va être d'évoquer dès à présent quelques articles épars, avec en particulier un point sur le GIEC, avec Novetic dans un article du 20 mars. Le GIEC, qui est un modèle, est-il un modèle à bout de souffle? C'est la question que pose l'article. Et puisque cet article nous rappelle que la crainte principale de tous les écologistes, c'est que le rapport du GIEC passe à la trappe, invisibilisé par la réforme des retraites. Le conflit sur les retraites va mettre l'éteignoir sur la sortie de la synthèse du GIEC. C'est une crainte exprimée par Jean Jouzel, qui est climatologue, qui l'exprime dans Libération. Et moi qui me demandais qui allait faire disparaître le nouveau rapport du GIEC de l'actualité cette fois, ironise sur Twitter le rédacteur en chef du média Vert. Difficile pour ce rapport des rapports, comme le titre Les Échos, de se faire une place dans cette actualité brûlante enflammée par le 49-3. Et pourtant, le GIEC a réussi un tour de force en faisant autorité en matière de climat. Ce rapport vient ainsi clore un cycle commencé en 2015, prenant en compte les trois rapports principaux publiés sur les preuves physiques du réchauffement, sur ses impacts et enfin sur les mesures d'atténuation. Une synthèse particulièrement utile pour la prochaine COP28 sur le climat qui sera organisée fin décembre aux Émirats Arabes Unis. Défense de rire. Mais sur le fond, quoi de nouveau? Rien, car les informations essentielles ont déjà été données. Un septième cycle devrait être lancé et aboutir aux alentours de 2030, mais plusieurs voix se font entendre sur la nécessité de repenser ce cadre. Il y a un risque que ces rapports soient contre-productifs, car le GIEC cadre ses messages de manière très large. On a trois messages. Le changement climatique est réel, on voit les impacts se succéder, et les solutions existent, explique Carrie de Prick, qui est chercheuse et autrice du livre « GIEC, la voie du climat ». Ces grands messages n'aident pas nécessairement, nous dit-elle. Les critiques viennent même des auteurs des rapports. Si le chercheur spécialisé dans la géopolitique de l'environnement et la migration climatique, François Gémen, reconnaît la nécessité d'une évaluation scientifique indépendante qui établisse un consensus, il ajoute toutefois: ceci étant dit, aujourd'hui, le long cycle d'évaluation de 8-9 ans n'est plus adapté au mode de décision politique et à l'urgence. Dans un édito publié dans Le Monde en 2021, le journaliste spécialisé Stéphane Foucard allait plus loin et s'interrogeait à quoi sert encore le GIEC. Selon lui, le cycle sans fin du travail du GIEC, composé des rapports qui s'enchaînent, produit la nécessité d'une éternelle procrastination, c'est-à-dire le fait de reporter au lendemain. C'est ce processus précis de synthèse et de transmission de la connaissance qui peut sembler aujourd'hui en bout de course. Non seulement parce qu'il est sans fin, mais aussi parce qu'il donne aux responsables politiques l'illusion d'agir. Nous agissons, semblent penser les décideurs, puisqu'une armée de scientifiques y travaille perpétuellement, écrit-il. D'autant, rappelons-le, que les membres du GIEC sont les pays et non pas des personnes physiques. 195 pays sont représentés, d'où l'exercice de dépolitisation du résumé pour les décideurs. Un texte d'une dizaine de pages approuvé ligne par les délégués. La volonté du GIEC est de ne pas pointer du doigt les principaux émetteurs ou de le faire de manière très nuancée. Ce sont les États qui négocient ces nuances, précise Carrie de Prick. Dans ce contexte, au-delà de l'alerte, le GIEC peut-il avoir un effet mobilisateur ? Ce n'est pas son rôle, tranche Franck, ancien activiste d'Extinction Rébellion. J'ai beaucoup de mal à critiquer le GIEC qui fait son travail, c'est à la société civile de prendre le relais derrière. La question est plutôt, le mouvement climat est-il assez politisé ? Pendant longtemps, la devise de l'écologie en France n'était ni de droite ni de gauche. On voulait sortir du jeu politique traditionnel, analyse Franck. Les rapports du GIEC ont évolué, ils ne se contentent plus d'alerter. Et de fait, derrière les grandes lignes et les éléments de langage repris en boucle par les médias et les politiques, le GIEC a en effet introduit des petits changements de paradigme, comme le fait remarquer Carrie de Prick. Le rapport de synthèse mentionne notamment la sobriété ou encore l'équité, mais il faudra aller plus loin et sortir des rapports plus spécifiques permettant de sélectionner les enjeux de mise en œuvre dont les États ont besoin plutôt que des rapports de synthèse trop généraux, trop vagues. Depuis quelques années, des GIEC régionaux se forment d'ailleurs pour mieux identifier les enjeux territoriaux. François Gémen propose lui des rapports plus petits, plus flexibles sur des sujets de controverse dans les débats publics. Reste aussi à améliorer la transparence. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi opaque, indique à Novetic la journaliste Audrey Garic. Les journalistes n'ont accès qu'au rapport final. On ne sait pas qui a pesé sur quoi. Les négociations lors des COP sont plus transparentes, note-t-elle. Voilà, bah cet article, moi, me semble intéressant pour dire, alors vu de loin, sans être un spécialiste, mais qu'en tout cas, les communications du GIEC, effectivement, reposent sur bien une analyse de publications scientifiques et à ce titre, sont extrêmement solides. En revanche, lorsqu'on va sur le volet des solutions existent, hein, c'est un petit peu toutes les conclusions que l'on peut avoir de... Eh bien, de différents documentaires hein, sur cet aspect, elles sont bien évidemment pas à la hauteur des enjeux et surtout elles ne bousculent pas le modèle économique. On voudrait nous faire croire, en tout cas, que il faudrait que la sauvegarde de l'environnement reste compatible avec l'activité économique et le modèle économique tel qu'il est conçu, ce modèle de financiarisation de l'économie, ce modèle ultralibéral. Et bien sûr, ces orientations ne sont pas du tout interrogées et il est plus que probable que le modèle économique dans lequel nous nous trouvons, comme le disait cet article de la décroissance au tout début sur les retraites, ce modèle économique dans lequel nous nous trouvons soit responsable évidemment de ce cycle infernal dans lequel plutôt que de ralentir, nous accélérons et c'est bien le dilemme face auquel on se trouve. Donc voilà, des rapports du GIEC à prendre en considération, notamment sur la revue et le tour d'horizon des études, notamment scientifiques, qui font le point sur cette question importante de l'effet de serre qui nous menace, mais en tout cas des réponses économiques, politiques et sociales qui ne sont pas à la hauteur et certainement pas de la compétence, d'une compétence scientifique pure, mais bien d'une compétence politique au sens noble et des organisations des sociétés. Et évidemment, c'est là que la pensée dominante est tout à fait incapable de proposer des solutions efficaces. Alors, puisqu'on parle de gaz à effet de serre, je voulais évoquer aussi, toujours avec Novetic, dans un article du 1er avril, on nous a dit que, avec l'effet du Covid, avec le ralentissement économique, le léger ralentissement, d'autres pratiques auraient pu émerger. On entend notamment le fait que, avec les effets du coût de l'énergie liés à la guerre en Ukraine, notamment, la consommation est moindre. Et on s'aperçoit qu'on reprend très vite le business as usual, ça veut dire le scénario classique, comme d'habitude. Puisque Novetic nous rappelle, dans cet article du 1er avril, que les jets privés sont en hausse de 64% entre 2021 et 2022 et que c'est un record puisque le jet privé est un des modes de transport les plus intensifs en carbone et il continue de se développer malgré le besoin de réduire drastiquement les émissions de CO2. Selon une étude publiée par Greenpeace et le cabinet CE Delft, les voyages en jet privé ont augmenté de 64% donc entre 2021 et 2022 en Europe. Les jets privés, réservés à une minorité d'ultra-riches, ont des conséquences désastreuses sur le climat, sur l'environnement et sur la santé de toutes et tous, déplore Clara Maria Schenk, responsable de la campagne européenne Mobility for All de Greenpeace, dans le communiqué de l'étude. Le chiffre est à relativiser car l'activité des jets privés ne dépasse en 2022 que légèrement le niveau d'avant Covid. Toutefois, la reprise du jet privé est beaucoup plus rapide que pour les lignes régulières. Le trafic des vols privés était en 2022 15% plus haut qu'en 2019 selon le BAA, alors que l'activité des lignes régulières était en février 2023 encore inférieure de 3% par rapport à 2019 selon l'IATA. Donc ce sont des organismes internationaux chargés de ces questions. Autre apprentissage de l'étude, le bilan carbone du jet privé en Europe a doublé en un an. Il équivaut pour 572 000 vols recensés en 2022 à celui de 550 000 habitants de l'Union européenne. Si l'empreinte carbone augmente encore plus vite que le nombre de vols, c'est à cause des longs trajets. La part des vols longs courriers a considérablement augmenté entre 2020 et 2022, même si les vols de très courts courriers restent nettement prédominants dans l'ensemble, précise Greenpeace à Novetic. L'étude a porté donc sur les vols au départ et à l'arrivée des pays européens entre 2020 et 2022 et exclut les avions de moins de 3 places qui reviennent dans l'aéroport de départ. Alors, gain de temps, flexibilité, luxe, les attraits du jet sont multiples. Le marché devrait croître de 50% entre 2020 et 2030 selon une étude du cabinet Allied Market Research cité dans un rapport publié en 2021 par l'association Transport et Environnement. Ce spécialiste de la mobilité durable montre également dans une étude réalisée en 2023 que plus de 80% des plus grandes entreprises mondiales n'ont pas pris d'engagement suffisant de réduction des vols d'affaires. Une hausse des émissions de CO2 est donc attendue alors qu'elles avaient déjà progressé de plus de 30% entre 2005 et 2019. L'association alerte aussi sur le développement des jets supersoniques qui consomment entre 5 et 7 fois plus. Ces jets ne serviraient qu'à une petite élite et réduiraient le temps de leur trajet de moitié, indique Transport et Environnement. La France est le pays de l'Union européenne qui compte le plus de voyages en jet privé. Selon l'étude de Greenpeace, 4 villes françaises se trouvent dans le top 10 des trajets les plus empruntés, Paris-Londres, Nice-Londres, Paris-Genève et Paris-Nice. La moitié des voyages en jet privé proviennent d'une location ou d'une fractional ownership, une possession partagée, un tiers provient de particuliers, le reste correspond à des vols gouvernementaux, médicaux ou militaires, selon EBAA France. Greenpeace appelle à interdire le jet privé, un sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 6 avril. C'est jeudi, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe écologiste. Cet essor des vols en jet privé est un scandale à l'heure où l'on demande aux citoyens de faire des efforts pour limiter leur consommation d'énergie, indique Clara Maria Schenk. Le ministre des Transports, Clément Beaune, appelait l'été dernier à réguler les vols en jet privé, symbole d'un effort à deux vitesses. Les jets privés cristallisent les tensions car de nombreuses alternatives moins carbonées existent. S'ils représentent 4% des émissions du secteur aérien au niveau mondial, ils émettent 10 fois plus de CO2 en moyenne par passager et par kilomètre que des vols de lignes commerciales régulières selon Transport et Environnement. De plus, Greenpeace explique que 55% des trajets étudiés étaient des déplacements courts ou très courts, inférieurs à 750 km qui auraient pu être effectués en train. Les tensions à l'encontre des jets privés ont atteint leur paroxysme l'été dernier avec la vague de tracking des données de vol accessibles à tous. Le compte Twitter @iFlyBernard dénombrait pour 5 patrons français rien qu'au mois de juillet 2022 123 heures de vol et 520 tonnes de carbone. Récemment, ce sont les méga-chalutiers des navires-usines contestés pour leur impact environnemental qui sont scrutés par le compte @TrollWatch créé par l'ONG Bloom. Voilà, donc c'est un article. C'est vrai que le jet privé, c'est pas la part essentielle de la pollution aérienne, mais en tout cas, ça reflète bien... Pour revenir aussi un peu au débat sur les retraites, hein, le fait que, eh bien, on sait qu'il y a suffisamment d'argent dans notre société pour qu'on puisse apporter des solutions, en tout cas durables, à tout le monde. Et on voit que une minorité s'accapare toutes ces toutes ces ressources pour pouvoir les gaspiller et bien certainement nous donner des leçons ou s'acheter une bonne conscience en faisant des œuvres très vertueuses sur le plan de l'environnement, mais tout en considérant que il ne faut pas mettre un frein à leur capacité à se déplacer vite. Voilà, on pourrait faire d'autres échos, en tout cas sur ces questions, notamment faire un parallèle avec, je le dis souvent dans cette émission, hein, ces engins de mobilité, alors de mobilité assistée, on va dire, hein, dans la ville. Donc il y a eu un sujet d'actualité sur les trottinettes. C'est ce vote qui est intervenu hier avec un faible succès au niveau de la participation, mais en tout cas un résultat qui est très clair. Et je vous renvoie d'ailleurs à un dessin qui dit beaucoup de choses, encore une fois dans le mensuel La Décroissance, qui se trouve en page 5 avec une vignette sur une personne en situation de handicap en fauteuil roulant. Donc l'intitulé c'est « Personne en situation de mobilité réduite subie ». Et puis l'image d'à côté, dessin de Léandre, il y a une jeune personne sur sa trottinette électrique, personne en situation de mobilité réduite volontaire. Voilà, je trouve que bien cette image reflète bien cette notion de gaspillage énergétique. Hein. Bien sûr, une personne hémiplégique en fauteuil a besoin de cette dépense énergétique et de cette assistance. En revanche, nombre de personnes dans la force de l'âge, de surcroît, dans un pays dans lequel bien on est victime de pathologies liées à un manque d'activité, voilà, on ne peut, enfin, il faut considérer que l'usage est disproportionné des batteries, des métaux rares qui composent cette assistance électrique. Pour nous aider à faire quelques kilomètres en ville qui peuvent se faire par nos propres moyens. Donc voilà, tous ces débats autour de la question des transports méritent, à mon sens, d'être évoqués. On a peut-être le temps de se faire une courte pause. Allez, une pause rigolote avec une chanson pour enfants. Ça fait du bien de temps en temps, par où ça passe. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89,4 MHz.
C'est le printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle aubaine turlutaine, je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est le printemps, les arbres sont en couleur. Dans les nids, mes petits, c'est cosy, tout son cœur. Le matin, ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps qui vient juste après l'hiver. Le voilà, youpla là, c'est joli pis c'est pas cher. Je suis content, c'est le printemps, c'est pour moi qu'elle butine. Les abeilles dans le soleil me préparent mes tartines. Le matin, ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps. Je compte les rossignols. Je suis gâté, c'est congé. Je n'irai pas à l'école. Je suis content, c'est le printemps. Pousse les petits bourgeons dans les prés. Sur mon nez, pousse les petits boutons. Le matin, ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content dans les temps. Elle s'embrasse, y en a même qui se tripatouille. Je suis content, c'est le printemps. J'aurai bientôt une petite sœur. C'est maman, en chantant, qui me l'a dit tout à l'heure. Le matin, ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps.
Voilà, c'est le printemps, nous dit Henri Dess. Belle chanson. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans le dernier quart d'heure de l'émission Les Mangeux de Terre, qui fait un tour d'horizon de l'actualité. Peut-être, on va terminer sur ces questions énergétiques, en tout cas avec quelques articles, un chiffre qui nous est donné par Actu Environnement sur la situation actuelle des logements interdits à la location en France depuis le 1er janvier 2023. Eh bien, il y en a 500 000. Il s'agit de passoires thermiques classées G au diagnostic de performance énergétique et dont la consommation énergétique est supérieure à 450 kWh par mètre carré par an. Donc, considérées très énergivores. Donc, pour être plus clair, hein, c'est seulement une fraction de la classe G, donc la classe la plus énergivore qui va de A à G. Donc 500 000 logements et le nombre total de passoires énergétiques sous les étiquettes F et G, donc qui consomment le plus, s'élève quand même à 5,2 millions pour le parc de résidence principale qui compte 30 millions de logements. Donc on voit que plus d'un logement sur 6 sont des passoires énergétiques et évidemment ce chiffre interpelle quant à la compréhension de la propriété d'un logement et il est bien évident que un certain nombre de petits propriétaires n'ont sans doute pas les moyens de payer autre chose que leur crédit et leur logement, mais qu'un grand nombre aussi considère le logement et la propriété comme une vache à lait, comme une rente, et déconnecte finalement l'usage totalement de l'usage, évidemment, de ce logement qui est une des conditions premières de la dignité dans une société, et se lance et concourt à une spéculation tout en dégradant la valeur du bien. Il y a vraiment là un résultat de l'inaction publique, en tout cas en la matière, qui est porteuse d'inquiétude dans la perspective de raréfaction de l'énergie et des moindres consommations auxquelles nous devrons nous astreindre, et qui risque de peser évidemment sur les ménages les plus vulnérables d'entre nous. Alors, comme je l'évoquais comme le rappelle Reporter dans un article du 16 mars, nous avons constaté cet hiver une baisse inédite de la consommation électrique, puisque les coupures de courant ont été évitées. Grâce à cette baisse, a indiqué RTE, donc RTE c'est le réseau de transport d'électricité, qui a produit un bilan de l'hiver 2022-2023, qui a été présenté donc le 16 mars. Et ce résultat a été obtenu malgré l'effondrement des productions hydrauliques et nucléaires qui sont au plus bas depuis respectivement 1976 et 1988, jusqu'à 8 alertes EcoWatt orange, donc c'est-à-dire le système électrique considéré comme tendu. Le rapport entre l'offre et la demande, la demande était trop forte par rapport à l'offre, donc il y a eu 8 situations d'alerte orange. Et 12 situations d'alerte rouge, donc système électrique très tendu, ont été évitées d'après le service EcoWatt mis en place pour la première fois par le gestionnaire de réseau très haute tension. La baisse de consommation brute d'électricité s'explique pour un quart par la météo et pour les trois quarts par les économies d'énergie, a résumé Thomas Vérinck, qui est directeur exécutif en charge du pôle stratégie, prospective et évaluation de RTE. D'octobre à février, la clémence des températures a permis d'économiser 7 TWh, les économies d'énergie, donc 20 TWh, par rapport à la moyenne constatée sur 2014-2019, représentent une baisse de 9% par rapport aux hivers précédents, une fois corrigé l'effet météo. C'était souhaitable, mais inattendu dans ses proportions, a commenté Xavier Piechassik, qui est président du directoire. Tous les secteurs, industrie, tertiaire et particulier, ont diminué leurs demandes. RTE a lancé une analyse pour tenter de comprendre si cette baisse était conjoncturelle ou structurelle. Les effets économiques liés au prix de l'électricité expliquent bien la baisse dans la grande industrie, a expliqué M. Vérinck. Il y a eu aussi des effets non économiques, engagement citoyen, plan de sobriété, chasse au gaspillage, mais d'un point de vue technique, il n'est pas du tout aisé de les départir. Probablement qu'ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les résultats finaux de cette étude seront présentés fin mai, et bien sûr, en fonction du niveau de précarité énergétique et aussi de capacité à payer, bien sûr, il y a eu de très fortes contraintes et beaucoup de ménages qui ont grelotté de froid cet hiver. En tout cas, dans une situation d'inconfort très important. Toujours avec Reporter, puisque on parlait de la production d'électricité, eh bien, Reporter nous dit qu'EDF va examiner 320 soudures sur le sujet des fissures dans le nucléaire. EDF a donc dévoilé sa nouvelle stratégie de contrôle de la corrosion sous contrainte en prévoyant d'examiner 320 soudures des circuits d'injection de sûreté, donc les RIS, et de refroidissement du réacteur à l'arrêt, RRA, qui ont fait l'objet de réparations lors de la construction de l'installation, et ça c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui l'a évoqué dans un communiqué du 16 mars. Plus de 90% des soudures identifiées comme prioritaires par EDF devraient avoir été contrôlées d'ici la fin de l'année. Ce plan fait suite à la découverte d'une fissure d'une profondeur très importante, 23 mm, sur une épaisseur de tuyau de 27 mm à un endroit inattendu. La branche chaude d'un des 10 circuits d'injection de sûreté du réacteur de Penly, qui est en Seine-Maritime. Ce défaut a été vraisemblablement généré par des opérations ciblées de double réparation. Lors du premier montage des tuyauteries, avait estimé EDF dans une note d'information datée du 8 mars, d'où l'examen des 320 soudures ayant été déjà réparées. L'ASN prend acte de cette évolution de la stratégie. Des discussions sont en cours avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN, et EDF sur la pertinence du calendrier proposé par l'exploitant. Nous nous demandons si certains contrôles ne doivent pas être avancés et attendons des justifications complémentaires d'EDF, a indiqué l'ASN lors d'un point presse jeudi 16 mars. Autre dossier sur la table, les fissures de fatigue thermique. EDF en a découvert deux sur les réacteurs Penly 2 d'une profondeur inédite de 12 mm et à Cattenom 3. Ce phénomène est bien connu d'EDF et fait l'objet d'un programme de surveillance dédié. Mais ces deux dernières fissures ne sont pas apparues sur des zones a priori sensibles et ont été détectées non pas dans le cadre du contrôle de la fatigue thermique, mais dans celui de la corrosion sous contrainte. La découverte d'un défaut de fatigue thermique parmi les grands défauts récemment caractérisés sur une soudure pour laquelle ce mode de dégradation n'était pas attendu nécessite des analyses complémentaires, a donc estimé l'ASN dans son communiqué du 16 mars. On le voit, on a toujours, encore et toujours, bien un parc en difficulté. Et alors justement pour l'aspect social que j'évoquais tout à l'heure, les coupures d'électricité pour impayés ont bondi de 10% en 2022, nous apprend Reporter dans un article du 30 mars, et qui conclut que le bouclier tarifaire et les chèques énergie n'auront pas suffi, puisque, comme je l'évoquais tout à l'heure, en 2022, le nombre d'interventions pour factures d'électricité impayées a augmenté de 10% et s'élève désormais à 863 000. La crise de l'énergie actuelle interroge sur les dispositifs de protection à long terme des consommateurs les plus fragiles, a déclaré le médiateur de l'énergie, Olivier Chaland-Belval, dans un communiqué publié le 30 mars. Elle doit nous inciter à faire un effort exceptionnel en faveur des travaux de rénovation énergétique des logements. Parmi les interventions menées en 2022, 610 000 concernaient des réductions de puissance qui sont moins pénalisantes pour les consommateurs concernés. En clair, celle-ci assure un service minimum permettant d'allumer les lumières, de faire tourner le réfrigérateur ou encore de recharger son téléphone. Elles ont bondi de 36% en l'espace d'une année. Petit commentaire de ma part, vous entendez que quand on réduit la puissance, on ne parle plus de chauffage. Hein. Voilà. Donc, les coupures totales d'électricité ont diminué de 38% pendant le même temps, avec 157 000 interventions recensées en 2022 contre 254 000 en 2021. Cette évolution est principalement due au fait que quelques fournisseurs, notamment EDF, ont décidé de procéder à des réductions de puissance en cas d'impayé plutôt qu'à des coupures d'électricité. Donc on voit que l'effet est le même sur le chauffage. Depuis le 26 février, un décret oblige désormais ceux-ci à fournir une alimentation minimale pendant au moins 60 jours avant de couper le courant pour les ménages bénéficiaires du chèque énergie et du fonds de solidarité logement. En d'autres termes, la fin de la trêve hivernale, le 1er avril, ne pourra plus être synonyme de coupure immédiate de l'électricité pour les locataires en difficulté. Olivier Chaland-Belval appelle toutefois à aller plus loin dans la protection des consommateurs en instaurant un droit à une alimentation minimale en électricité pour tous tout au long de l'année. Voilà pour ce qui est de la situation sociale sur la question de l'énergie, en tout cas ces questions de coupure d'électricité. Il faudrait aussi, pour être complet, regarder, puisque bien on parlait du chèque énergie, mais on sait très bien que on a un certain nombre de ménages éligibles à ces aides qui ne vont pas les chercher, en lien avec aussi la difficulté et la complexité bien de la numérisation, du tout numérique. Donc il faudrait aussi, pour être tout à fait complet, voir obtenir ces chiffres dont on ne dispose pas actuellement. Voilà, bien écoutez, on est à... Il est 19h26, on est vraiment en fin d'émission. On va se quitter tranquillement en musique. La prochaine émission aura lieu le lundi 1er mai. Alors, ça sera une émission enregistrée et diffusée, puisque le 1er mai, c'est la fête internationale des travailleurs et travailleuses. Et donc, eh bien, pour ma part, je serai dans la rue toute la journée et je ne serai pas au studio à 18h. Donc, l'émission sera enregistrée, ce qui ne pose pas de difficultés. Et eh bien voilà, donc on se retrouvera dans le studio et en direct pour l'émission du mois de juin. D'ici là, vous pouvez soutenir Radio Libertaire, évidemment, en souscrivant en ligne, en allant sur le site de la radio, qui ne vit que par le soutien de ses auditeurs et auditrices. Et eh bien d'ici là, je vous invite à rester à l'écoute de Radio Libertaire, la plus rebelle des radios.
I love it. I want. Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.